Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je veux commencer par présenter mes excuses parce que j'étais pas là dimanche dernier, mais a priori on a annoncé qu'on allait faire Hébreux 2, les quatre premiers versets ce matin. Et en fait je suis en remplacement et j'avais pas compris que je devais prendre le remplacement avec le sujet et du coup j'ai traité complètement autre chose. Mais on a réussi à arranger les choses, donc David traitera Hébreux dimanche prochain. Voilà. Mais je pense que c'est très bien, parce qu'il me semble que ce dont on va parler ce matin, en partie, va faire suite à ce qu'on a vu dans cette première partie de culte ensemble ce matin. Alors aujourd'hui, on va voir qui peut détruire une vie, on va voir qui peut reconstruire une vie, et on va voir comment cela est réalisable. Alors il y a très longtemps, c'était en 1995, donc ça remonte un petit peu, j'ai participé en région parisienne à une mission d'évangélisation. C'était une grosse organisation, on avait fait venir des missionnaires américains et tout. Et donc pour cet événement, l'organisation avait publié des t-shirts. Et donc, on était plusieurs équipes, il y avait une couleur par équipe. Et donc, moi, j'avais un t-shirt rouge qui ressemblait à peu près à ça. J'ai essayé de faire une reconstitution comme j'ai pu. Donc, on avait ce t-shirt avec deux mains attachées par une chaîne, brisées par la croix. Et en bas du t-shirt, il y avait écrit « La vérité vous rendra libre ». Et j'ai porté ce t-shirt pendant des années. Et puis un jour, je me suis dit, il faudrait peut-être que tu réfléchisses quand même à ce que tu affiches partout dans les rues et dans les centres commerciaux. Et je n'avais jamais pris le temps d'étudier qu'est-ce que ça veut dire que la vérité vous rendra libre. Alors je vous propose de partager le fruit de ma réflexion ce matin. Alors quand on porte un t-shirt comme ça, pour celui qui le lit, ça vend un petit peu du rêve. Hein, qui ne rêve pas de liberté ? La liberté d'aller où on veut, d'y aller quand on veut, de gérer son temps comme on veut, la liberté d'expression, la liberté financière. Voilà, il y a plein de types de liberté. Et ça fait toujours un peu rêver, cette notion de liberté. Mais là, dans ce verset, parce que c'est un verset biblique, c'est le verset 32 du chapitre 8 de Jean, je me suis posé, mais finalement, on est libre de quoi ? Quand il y a un bug d'affichage là-haut. Il y avait un petit emoji, mais bon, c'est pas grave. Et la deuxième question, c'est libre de qui ? Alors du coup, on va regarder à nouveau ce verset, voir si on trouve des indices pour répondre à ces questions. Donc, Jean 8, hop. Le PowerPoint bug complètement. Il n'y a pas de texte qui s'affiche. Je suis désolé. Désolé, excusez-nous, je vais revenir en arrière. Voilà, donc Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors, d'après ce texte, qu'est-ce qui nous rend libre ? La vérité, effectivement. Alors, si la vérité nous rend libre, qu'est-ce que c'est qui nous rend prisonniers ? Le mensonge, exactement. Donc déjà, on sait de quoi on est libre, on a répondu à la question « quoi ?» On est libre du mensonge, on va répondre maintenant à la question « qui ?» De qui on est libre ? Et ça, on va trouver dans Jean 8, au verset 44. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité. » Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur est le père du mensonge. Et en fait, le mensonge, c'est la stratégie de Satan pour nous faire chuter. Et quand on succombe au mensonge, on perd notre liberté. Alors on l'a vu affiché tout à l'heure, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu ce livre, c'est un livre qui est assez connu, c'est « L'art de la guerre » de Sun Tzu. Et dans ce livre, il est dit à un moment, « Si vous connaissez l'ennemi et que vous vous connaissez vous-même, vous n'aurez pas à craindre le résultat de 100 batailles. » Il y a aussi le général Patton qui a dit quelque chose un peu dans le même style, en disant « Connais ton ennemi, connais ton terrain, et ta victoire sera totale. » Et enfin, il y a notre bon vieux Napoléon qui a dit quelque chose de très intelligent. « Celui qui s'est flatté s'est aussi trompé. Méfiez-vous et observez votre adversaire mieux que lui ne vous observe. » Donc si on veut résister au diable, il faut connaître sa stratégie déjà, et il nous faut un allié, il nous faut l'aide de Dieu. C'est ce que Jacques nous invite à faire au chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc pour bien pouvoir comprendre tout, comment tout se passe, il faut connaître le mode opératoire du diable, il faut connaître sa stratégie. Et la stratégie du diable, elle tient en deux mots. Le premier mot, c'est « tenter ». Et le deuxième mot, c'est « accuser ». D'ailleurs, il est dit dans l'Apocalypse que le diable nous accuse jour et nuit devant Dieu. On peut retrouver ça dans Apocalypse 12 au verset 10. Donc la stratégie du diable pour nous faire chuter, c'est nous tenter et nous accuser, et le tout enrobé de mensonges. Donc la première étape, c'est tenter. Donc il va tenter en nous mentant, par le mensonge. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez la Genèse, quand le diable il dit « Mais pas du tout !» Hein ? Quand il propose à Adam et Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance et du mal, et qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas mourir, et là le diable va leur dire « Mais pas du tout !» Et pour vous montrer que c'est vraiment le père du mensonge, on va voir qu'il est très subtil et très pervers. Parce qu'en fait, derrière les trois mots « pas du tout », il y a deux mensonges. Il y en a un premier, il est évident, hein, c'est qu'il est en train de dire à Adam et Ève qu'ils ne vont pas mourir, alors que Dieu a dit exactement le contraire au chapitre précédent. Donc ça, c'est un mensonge clair et net. Mais ce mensonge, il sous-entend un deuxième mensonge, plus subtil et bien plus grave, c'est que le diable sous-entend que Dieu est un menteur. Alors, d'où ça sort, ça? Parce que Adam et Ève, c'est pas comme s'ils ne connaissaient pas Dieu. Hein, surtout Adam, il a été témoin de la puissance de Dieu. C'est même, il sait que Dieu a tout créé. Il l'a même aidé à donner des noms aux animaux. Donc, il connaît la puissance, la perfection et la sainteté de Dieu. Et pourtant, à ce moment-là, ils ont succombé au mensonge du diable. Et c'est pareil pour nous. Nous aussi, on connaît la perfection, la puissance, la sainteté de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, là, à la fin du culte, je viens vous voir, et le plus sérieusement du monde, je viens vous révéler que Dieu est un menteur. Quelle serait votre réaction? Levez le doigt ceux qui me croiraient. Personne. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors pourquoi, quand c'est Satan qui nous le suggère, on le croit? Allez, un petit mensonge vite fait. Hein, on est bien obligé de le faire de temps en temps. Oh, Dieu, il va fermer les yeux dessus. Et même si tu le dis assez vite, il ne va même pas s'en rendre compte. Et puis il ne peut pas tout savoir quand même. Hein, qui a déjà succombé à ça? Tiens, c'est intéressant, là. D'un coup, tout le monde lève la main, presque. C'est bizarre, quand même. À l'instant, il y a 30 secondes, vous m'avez dit que Dieu n'était pas un menteur. Et maintenant, vous avez accepté les mensonges du diable comme quoi Dieu l'était. Alors finalement, Dieu, c'est un menteur ou c'est pas un menteur? Bon, la réponse, elle est évidente. Dieu n'est pas un menteur, on le sait très bien. Mais le but de l'exercice, c'était de vous montrer à quel point le diable, lui, maîtrise son art et arrive à nous emmener là où on est convaincu du contraire. Et le pire, c'est qu'il maîtrise pas seulement son art avec des paroles, mais aussi avec des actes. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, verset 14, il nous est dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et en fait, il en a plein, des déguisements. Il peut se déguiser en film, il peut se déguiser en livre, en ami proche, en conseiller. Il peut même des fois, comme il est très malin, se déguiser en autre chrétien. Et on se laisse emmener sur un chemin qui n'est pas le bon. Vous vous rappelez de la stratégie d'attaque de Satan? C'est tenter, accuser. Donc une fois qu'on a succombé à la tentation, qu'on est tombé dans le péché, malheureusement, le diable ne va pas s'arrêter là. Pour être bien sûr que vous restiez dans votre péché, il va aller plus loin. Il ne va pas s'arrêter à la tentation, parce que le diable, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de gagner une bataille, lui, il aimerait bien gagner la guerre. Donc une fois qu'on a chuté, il va revenir avec la charge, avec une pluie de mensonges accusateurs. Ah ouais, tu oses encore te dire chrétien après ce que tu as fait? Après ça, tu peux arrêter de rendre témoignage autour de toi, hein, parce que tu as perdu toute crédibilité. D'ailleurs, tu peux même oublier Dieu, parce qu'après ce que tu as fait, il t'a déjà laissé tomber, il est passé à autre chose. Hein. Voilà pourquoi ce verset Jean 8, 32 est si important. Parce qu'on peut tous succomber au mensonge du diable. Parce que son objectif à lui, c'est qu'on perde cette liberté dont on a parlé tout à l'heure. Il nous promet la vie, mais en fait, il n'a que la mort à nous offrir. Et c'est pour ça que nous devons nous accrocher à la parole de Dieu, les amis. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et ce matin, je voulais vous encourager en vous rappelant que si Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité, c'est pour notre liberté. Et pour appuyer tout ça, je vous propose qu'on s'arrête sur un passage dans Zacharie, au chapitre 3, les versets 1 à 8, un passage qui va remettre tout le monde à sa juste place. C'est là que j'ai besoin des lunettes. Je ne sais pas si elles ont ces lunettes, c'est toujours quand je suis derrière la chaire qu'il y a un verre qui se barre quelque part. Bon, c'est pas grave. Je vais m'arranger sans. Alors, on va lire le passage ensemble. Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, « Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. » Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu? Or, Josué était couvert d'habits très sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui, et leur ordonna, « Ôtez-lui ses vêtements sales. » Et il ajouta à l'adresse de Josué, « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. » Alors je m'écriai, « Qu'on lui mette un turban pur sur la tête !» On lui posa donc le turban pur sur la tête, et on le revêtit d'autres habits. Or, l'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel fit ensuite cette déclaration à Josué. « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits et si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans mon temple les fonctions judiciaires, tu veilleras sur mes parvis et je te donnerai des guides pris parmi ceux qui se tiennent ici. Et maintenant, écoute, Josué, toi le grand prêtre, et tes collègues qui se tiennent devant toi, car vous êtes des hommes qui servaient de préfiguration. En effet, je ferai venir mon serviteur qui est appelé le germe. Alors le passage est un peu long, donc on va reprendre les trois premiers versets pour commencer. Donc je vais vous les relire. « Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, « Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu ? Or, Josué était couvert d'habits très sales et il se tenait devant l'ange. » Donc a priori, on est dans un espèce de tribunal, peut-être un tribunal céleste, où on a Satan qui exerce son activité favorite, accusé. Enfin, une de ses activités favorites, accusé. Donc on a donc trois personnages. On a Satan, qui est l'accusateur. On a Josué, qui est l'accusé, et qui est aussi grand prêtre, ou souverain sacrificateur. Ça veut dire que il est là aussi en tant que représentant du peuple de Dieu. C'était aussi le rôle du grand prêtre. Et en lisant ce texte, par extension, on peut aussi le voir comme étant représentant de nous-mêmes devant l'Éternel. Et le troisième personnage, c'est l'Éternel qui est le juge. Alors, je rappelle juste que ce texte est tiré de l'Ancien Testament. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, le souverain sacrificateur, qui était le représentant du peuple, il allait à la rencontre de Dieu une fois par an dans le lieu très saint. Donc ça arrivait qu'une fois par an, donc c'était un moment qui était très solennel. Il y avait des rites de purification, il y avait des ablutions cérémoniales, il y avait une tenue spécifique à respecter. Vous pouvez retrouver tout ça dans le livre d'Exode. Et si le souverain sacrificateur ne respectait pas tout cela, il prenait le risque d'être frappé de mort. Donc c'était pas quelque chose à prendre à la légère. Et il se trouve que dans ce texte, le grand prêtre Josué, il se présente devant l'Éternel avec des guenilles. En tout cas, c'est précisé au verset 3, avec des habits très sales. C'est un peu comme si moi je venais prêcher ce matin en bleu de travail. Surtout si vous connaissiez l'état de mon bleu de travail, vous seriez vraiment choqué de me voir prêcher avec. Mais en fait, il y a toute une symbolique derrière ça, puisque la saleté représente les péchés d'Israël. Et en plus, à l'époque de l'histoire de ce texte, il n'y a pas de temple. Le temple est en reconstruction. C'est-à-dire que le peuple ne peut pas faire de sacrifices, puisque les sacrifices se font au temple. Et s'ils ne peuvent pas faire de sacrifice, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas non plus expier leurs péchés. Donc je ne vous raconte pas l'état de la saleté des habits de Josué quand il se présente devant l'Éternel. Et c'est ça qui fait que l'accusateur, il peut s'en donner à cœur joie pour accuser Josué devant l'Éternel. J'imagine en train de dire, mais comment tu peux accepter un homme dans cette tenue, toi qui es trois fois saint ? Enfin, bon, il n'a pas besoin de mes conseils pour accuser. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction de l'Éternel, qui va finalement, au lieu de remettre Josué à sa place, il va remettre le diable à sa place, et d'une façon, il va lui rappeler que ce n'est pas lui le juge. S'il a retiré Josué des flammes, ce n'est pas pour rien, même s'il est crado et s'il est recouvert de péché. Et c'est ce que Satan fait avec nous, jour et nuit. Il nous fait remarquer nos faiblesses, et il les fait remarquer à Dieu. Comment t'as pu faire ça en tant que chrétien ? T'es pas vraiment un enfant de Dieu, en fait. Mais comme pour Josué, Satan n'est pas notre juge. Il n'est que l'accusateur. Et Dieu va lui dire, j'ai pas sorti Quentin, j'ai pas sorti Samy, j'ai pas sorti Valérie, j'ai pas sorti Betty, j'ai pas sorti Luc des Flammes pour rien. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible finalement que les accusations de Satan soient sans fondement? Finalement, est-ce qu'il n'a pas un peu raison quand même? Se présenter devant Dieu avec des habits sales, c'est pas très respectueux tout de même, non? Alors, on va lire la suite du texte. Donc Zacharie, chapitre 3, les versets 4 et 5. « L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, « Ôtez-lui ses vêtements sales. » Et il ajouta à l'adresse de Josué, « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. » On lui posa donc le turban pur sur la tête et on le revêtit d'autres habits. Or, l'ange de l'Éternel se tenait là. Donc non seulement l'Éternel a sauvé Josué des flammes, mais il va lui retirer ses vêtements sales et selon les traductions, il va lui mettre un habit de fête ou un habit précieux. Et Dieu, il fait exactement pareil avec nous. On l'a vu tout à l'heure. Il retire notre injustice pour nous revêtir de sa justice. Et c'est intéressant de noter que ce n'est pas Josué qui se change. C'est l'Éternel qui va changer la garde-robe de Josué. Ce qui signifie trois choses importantes. La première, c'est que nous n'avons aucune robe de justice qui puisse satisfaire Dieu dans notre garde-robe, c'est assez flagrant ici. Ce qui veut dire qu'on a absolument besoin de Dieu pour pouvoir porter les bons habits, parce qu'il n'y a que lui qui les détient. Le deuxième point, c'est que nous sommes incapables de nous changer par nous-mêmes. Il n'y a que Dieu qui peut nous changer nos habits sales pour des habits propres. Ce qui veut dire qu'à nouveau, nous avons absolument besoin de Dieu. Et le dernier point, c'est que nous devons absolument nous soumettre à Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Il y a un âge où les bébés ne veulent pas de chapeau. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre un chapeau à un bébé qui ne veut pas mettre un chapeau, mais c'est à peu près impossible. Alors il y a une stratégie, c'est le petit élastique qui va bien là, qui passe sous le menton, mais même avec ça, ils arrivent à l'enlever. Je ne sais pas comment ils font. Ce qui veut dire qu'un bébé qui ne veut pas mettre un chapeau, on ne pourra pas lui mettre de chapeau. Alors nous, si on ne veut pas que nos habits soient changés, ça sera encore plus impossible de nous changer nos habits. Ce qui veut dire que si on veut changer, il faut absolument qu'on le veuille déjà et qu'on se soumette à Dieu, qu'on place notre foi en lui. Dieu, il est prêt à faire sa partie du boulot, mais en contrepartie, ça nous demande de l'obéissance. Et on retrouve ça dans ce texte de Zacharie qu'on a lu ensemble. L'ange de l'Éternel fit ensuite cette déclaration à Josué. « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits et si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans mon temple les fonctions judiciaires, tu veilleras sur mes parvis et je te donnerai des guides pris parmi ceux qui se tiennent ici. » Et parfois on chante « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. » Mais si on veut être dans les parvis de Dieu, ça implique obéissance et soumission. Alors ça fait du bien de lire un texte comme ça, c'est un texte qui est déjà assez puissant. Mais la bonne nouvelle, l'incroyable bonne nouvelle, je dirais, c'est que les choses ont évolué. Aujourd'hui, c'est encore plus puissant. Alors on va lire la fin du texte. Donc le verset 8, « Et maintenant, écoute Josué, toi le grand prêtre, et tes collègues qui se tiennent devant toi, car vous êtes des hommes qui servaient de préfiguration. En effet, je ferai venir mon serviteur qui est appelé le germe. » Alors l'image du germe, ça servait à désigner le prince héritier dans une dynastie royale. Et cette parole de Zacharie, elle est pleinement accomplie aujourd'hui. On peut lire ça dans Romains 8, versets 33 et 34. « Qui accusera encore les élus de Dieu ?» Dieu lui-même les déclare justes. Donc ça, c'est l'histoire de Josué, à qui on a enlevé les habits sales, on a mis les habits propres, et il a pu être déclaré juste. « Qui les condamnera ?» Christ, donc c'est-à-dire Jésus, l'héritier, le Fils de Dieu, le germe, est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc ça veut dire qu'en plus du juge et de l'accusateur qu'il y a dans cette histoire, nous avons un avocat qui prend notre défense jour et nuit devant l'accusateur pendant que lui-même perd son temps à nous accuser. Alors qui est ce germe, ce Jésus ? Parce que je vous parle de Jésus, mais c'est qui ce Jésus ? Alors on va voir ce qu'il est dit à son sujet dans Jean, tout au début de Jean, au premier chapitre. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Je passe au verset 14 exprès. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Donc avec ce texte, on voit que Jésus était le représentant de la parole de Dieu sur terre, qu'il était lui-même la parole. Et on va voir la suite du verset 14 qui nous dit « Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, donc le germe annoncé et promis par Zacharie, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Ce qui veut dire que la parole est la vérité. Jésus est la vérité. Cette vérité qui nous rend libres. Jésus, c'est notre modèle. Vous vous rappelez toujours la stratégie du diable ? Tentation, accusation. Et il y a une seule personne dans toute l'histoire de toute l'humanité qui n'est jamais passée à l'étape 2, qui n'a jamais pu donner l'occasion au diable de l'accuser, et c'est Jésus. Ce qui veut dire que Jésus est non seulement mon avocat, notre avocat, mais il est aussi mon modèle, notre modèle. Alors, quelle a été la stratégie de Jésus pour ne pas succomber à la tentation ? Elle est très simple, très simple. À lire en tout cas, elle est très simple. Elle tient en trois mots ou en 10 lettres. Et en 10 lettres, c'est « Il est écrit ». Il est écrit. Il est écrit. 3 fois, Jésus a été tenté et 3 fois, il a eu la même réponse. Alors, on n'a pas le temps d'étudier les 3 tentations de Jésus aujourd'hui, mais si on plonge dans le texte, on peut aussi en sortir pas mal de mensonges de la part du diable, et on voit que sa stratégie est toujours la même et que ça passe toujours par le mensonge. Et face au mensonge, quelle est notre seule arme ? C'est la vérité. Prouvez à une personne qu'elle a tort et vous avez gagné. Prouvez à une personne qu'elle ment et vous avez gagné. La vérité, la seule vérité, c'est quoi ? On l'a vu tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors c'est là qu'intervient ma question étrange du jour. Donc il va falloir encore participer et lever le doigt. Ça va vous paraître peut-être étrange comme question, mais levez le doigt ceux qui ce matin n'ont pas de ceinture. Eh bien mes amis qui avaient levé la main, vous êtes très mal. Vous vous rappelez que Dieu nous a mis des habits propres, des habits neufs, des habits précieux. Ben, ce serait quand même bête de perdre son pantalon ou sa jupe parce qu'on n'a pas de ceinture, vous ne trouvez pas ? En tout cas, je pense que vous ne pourrez pas compter sur votre voisin pour vous passer la sienne en plus. Moi, je ne passe pas la mienne. Hein, je ne veux pas perdre mon beau pantalon tout neuf que Dieu m'a donné. Il est bien trop précieux. Alors Patricia, j'ai vu que tu n'avais pas de ceinture.
Alors j'en ai une pour toi. Elle est un peu surprenante, mais je peux te garantir qu'elle sert et qu'elle est efficace.
Qu'elle sert SERT et SE2RE d'ailleurs. Éphésiens 6, 14, tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Et c'est ça qu'il avait Jésus. Il avait la ceinture de la vérité, la parole de Dieu. Et vous savez ce que Dieu a dit à Josué, alors pas Josué qu'on a vu ce matin, Josué le successeur de Moïse. en Josué 1, 8, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, pas moi. Il y avait un petit piège dans la question. Je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, j'ai omis la fin du verset. Parce que c'est très bien de méditer la parole de Dieu, c'est super. De connaître la parole de Dieu, c'est génial. Mais l'idéal, c'est la fin du verset, qu'on verra que Jacques aussi a repris. Donc on va revoir le verset. « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. » Afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Et on voit ce matin que mettre en pratique la parole de Dieu, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. Il ne suffit pas de la lire, c'est très bien de la lire, c'est très bien de la méditer, il faut le faire, mais ça ne suffit pas. Ça ne va pas sans la mettre en application. Et on retrouve ça aussi dans Jacques, les versets 21 à 25 du chapitre 1, qui dit « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur. » Donc là, à nouveau, il faut se mettre en disposition pour être revêtu de la justice de Dieu. Donc Dieu nous enlève nos habits sales, il nous met des habits neufs, bien attachés avec une ceinture. Et on peut voir la suite du verset. Donc la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté, cette fameuse liberté dont on parlait. Il lui demeure fidèlement attaché, et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Donc mes amis, si on doit lire et connaître la parole, c'est parce que notre objectif, c'est de la mettre en pratique. Si on ne la met pas en pratique, ça ne sert à rien. C'est la mise en application de la vérité qui nous rendra libres, qui nous donnera cette liberté dont on parle ce matin. Une liberté qui, comme le dit Josué, comme le dit Jacques, nous donne du succès dans nos entreprises, nous rend heureux dans tout ce que nous faisons. La parole, la vérité, s'est faite chair. Jésus, il est venu porter le poids de nos fautes. Il a été crucifié pour avoir pris mes habits sales. Il est ressuscité pour me mettre des habits de fête. Et il s'est fait ma ceinture pour plaider auprès du Père, pour que je ne perde jamais mon pantalon, même devant les accusations du diable. Et il revient vers moi, il revient vers vous, il revient vers nous, en disant à chacun, oui, la vérité te rend libre. Et en conclusion de ça, je voulais juste vous laisser avec une courte prière de Jésus pour ses disciples. Mon Père, consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Merci à vous. Bon dimanche et bonne semaine à tous.